merci beaucoup. Je voudrais avant toute chose remercier les organisateurs et l'organisateur pour leur invitation à éclairer les équivoques de l'institution à la lumière de la conceptualisation qu'en propose la sociologie et plus particulièrement la sociologie turc-kényane dont il a été beaucoup question, alors moins aujourd'hui, mais particulièrement hier. Dans la préface de la seconde édition des règles de la méthode sociologique, texte qui date de 1901, Durkheim propose une définition de l'institution restée célèbre dans la mesure où l'institution s'y trouve érigée en objet propre de la sociologie et qu'elle s'y trouve par là même étroitement superposée au fait social. Je redonne cette définition que Vincent Descombes a citée déjà hier. On peut en effet, sans dénaturer le sens de cette expression, appeler institution toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité. La sociologie peut alors être définie la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement. On décèle usuellement dans cette définition durkheimienne le moment où la notion d'institution est élargie de son sens politique premier, l'institution comme type de réalité juridico-politique composant la structure du pouvoir, à un sens social plus large, l'institution comme relation sociale stabilisée, qu'il s'agisse de la famille, du mariage, de la propriété, de la peine, de telle croyance totémique, de tel rite religieux, de telle réaction morale, de telle technique professionnelle. Je prends volontairement des exemples durkheimiens. Durkheim l'indique en amont de cette définition, le trait distinctif qui permet de regrouper des phénomènes aussi divers sous l'appellation d'institution réside dans leur commune antériorité aux individus. Les individus sont, pour chacun de nous, déjà là. Elles nous préexistent, je cite à nouveau la seconde préface, l'individu les trouve toutes formées et il ne peut pas faire qu'elles ne soient pas ou qu'elles soient autrement qu'elles ne sont. On peut d'emblée souligner la rupture de cette définition sociologique de l'institution avec son acception politique. L'homme ne fait pas les institutions, il ne les établit pas, que ce soit par contrat ou par convention tacite, il les trouve toutes faites, face à lui ou devant lui. Comme l'a indiqué hier Vincent Descombes, Durkheim et les Durkheimiens résumeront d'un trait cette position des institutions en avance des individus. Elles sont, nous disent-ils, préétablies. Ainsi, Moss et Fauconnet écrivent-ils dans l'article Sociologie qu'ils rédigent en 1901 pour la Grande Encyclopédie que les institutions sont, je le cite, toutes les manières d'agir et de penser que l'individu trouve préétablies. Cependant, l'institution ne se tient pas en face ou en amont de l'individu de la même manière que les objets du monde physique. Ou encore, l'extériorité de l'institution est mêlée, c'est une extériorité tout intérieure. Il faut ici le souligner, et c'est plus rarement fait, la définition durkheimienne est surprenante. Il est en effet surprenant de trouver sous la plume de celui qui défend qu'il faut traiter les faits sociaux comme des choses, que les faits sociaux doivent être considérés par l'aspect ou par le côté où ils sont le plus isolés de leur manifestation individuelle. Il est surprenant de trouver une définition de l'institution comme manière d'agir, d'être, de penser, de sentir, comme croyance ou mode de conduite, c'est-à-dire comme des réalités non chosales logées à même les consciences individuelles. Dans la définition que Durkheim en donne en 1901, les institutions ne sont pas des organisations réifiées, ce que Vincent Descombes désignait hier comme le sens étroit, si j'ai bien compris, de l'institution, l'institution scolaire, l'institution religieuse, etc. Les institutions désignent au contraire des manières d'être qui n'ont pas d'autre lieu que les consciences individuelles, sans pour autant en dériver. Toute la subtilité est là. Les institutions, ce sont des réalités mentales qui sont en moi, tout en ne provenant pas de moi. Le lieu premier des institutions n'est donc pas la matérialité sociale dans son extériorité totale aux consciences individuelles. Les institutions sont dans la tête des individus. Et c'est là, Vincent Descombes l'a souligné hier, ce qui fait toute l'originalité de la définition durkheimienne de l'institution, à savoir ce sens large, ontologique, de l'institution comme manière d'être que les individus trouvent préformé en eux. C'est là également, ce me semble, le sens fort que les durkheimiens confèrent au critère du préétablissement, qui est selon eux distinctif de l'institution, j'en perds mon appellation. L'institution est pour chaque individu un toujours déjà là, non pas à la manière de la nécessité physique lui faisant face dans son extériorité, mais comme un au-dedans de lui qui cependant n'émane pas de lui. Le déjà-là du préétabli, le déjà-là de l'institué, est non pas un en face de moi, mais un au-dedans de moi qui ne vient pas de moi. On le comprend, toute la question est de savoir d'où cette réalité mentale spécifique vient. Ce à quoi Durkheim répond dans la définition de 1901 par un second élément définitionnel. Les institutions sont, je reprends cette définition, les croyances et les modes de conduite institués par la collectivité. N'y a-t-il pas, dans ce second élément définitionnel, un risque de dialèle ? L'institution définie comme tout ce qui est institué. Et ce risque de dialèle ne nécessite-t-il pas, à minima, d'expliciter ce en quoi précisément la collectivité institue ? Que peut vouloir dire « la collectivité institue des croyances et des modes de conduite » ? C'est à l'élucidation de cette « institué par la collectivité » que mon intervention est consacrée. Je défendrai à l'égard de cette « instituée par la collectivité » la thèse suivante. Il y a dans la conceptualisation durkheimienne de l'institution une théorie de la collectivité instituante qui parvient à hisser la normativité collective au-delà de la simple normalisation-régularisation des conduites, sans pour autant la reconduire à l'arbitraire du politique ou du conventionnel. Pour reprendre la formulation proposée hier par Elodie Djordjevitch, je défendrai donc que la conceptualisation durkheimienne de l'institution est compatible avec une conception forte de la normativité sociale, non réductible tant aux nécessités quasi-physiologiques de la normalisation fonctionnelle qu'à l'arbitraire du constituant politique conventionnel. Ou encore, mais ce n'est là qu'une autre manière de le dire, il me semble que la sociologie durkheimienne des institutions permet un dépassement de l'opposition par trop caricaturale mais néanmoins tenace, l'opposition entre nécessité de l'institué d'un côté et arbitraire de l'instituant de l'autre, en ouvrant la voie à une nécessité de l'instituant qui ne le réduise pas à de l'institué. Si vous voulez que je le refasse, je peux. Donc, en d'autres termes, un dépassement d'une double association, d'un côté l'institué qui serait uniquement du côté du nécessaire, de l'autre côté l'instituant qui serait du côté de l'arbitraire. Il me semble qu'il y a chez Durkheim une pensée de la nécessité de l'instituant qui n'est pas une reconduction à de l'institué. Alors, je reviens la question que pose la définition durkheimienne de l'institution, à savoir que peut vouloir dire la collectivité institue des croyances et des modes de conduite. Je commencerai dans une première partie par y répondre en creux, en précisant ce que cet institué par la collectivité n'est pas, à savoir un consolidé par la société. On trouve une telle assimilation de l'institutionnalisation à de la consolidation sociale, par exemple dans la critique que Georges Gurvitch émet dans le tome 1 de la vocation actuelle de la sociologie à l'encontre de l'acception large conférée par Durkheim à l'institution. Dans le chapitre 6 que Gurvitch consacre au concept de structure sociale, Gurvitch mène une critique serrée du structuro-fonctionnalisme de Parsons, qu'il conduit à réexaminer le concept, dit-il, si répandu et si démodé. En même temps, je rassure les organisatrices, il écrit en 1950, donc le concept si répandu et si démodé d'institution, dont, selon lui, la mode date de Durkheim et des Durkheimiens. Pour Gurvitch, l'institution durkheimienne, dans son sens large, l'institution comme manière d'être, se révèle tout à la fois trop large et trop étroite. Trop large parce que, selon lui, le critère du préétablissement, le fait que les institutions soient préétablies, donc trop large parce que le critère du préétablissement est, selon lui, insuffisamment précis et regroupe de manière indifférenciée des phénomènes disparates. Je cite Gurvitch, le concept durkheimien d'institution est trop large car il paraît indiscutable que les croyances, idées, valeurs, conduites collectives, même pour autant qu'elles soient préétablies, n'ont pas toutes le même caractère. En d'autres termes, qu'un rite religieux ou une mode vestimentaire soient tous les deux antérieurs aux individus qui les actualisent, ne suffit pas, selon lui, à les unifier sous le vocable commun d'institution et sous un traitement commun de la sociologie comme science des institutions. Mais, ajoute-t-il, le concept durkheimien d'institution est aussi trop étroit parce qu'il exclut de l'institution le non préétabli. En d'autres termes, l'assimilation de l'institution et du fait social sous le critère commun
du préétabli conduirait Durkheim à une réduction fonctionnaliste de l'institution au seul institué consolidé. Djurvich nous dit l'institué calme, rangé, conformiste, au détriment des dynamiques instituantes de l'institution. Djurvich ajoute non conformiste, réformiste, révolutionnaire, créatrice. Alors, cette critique de Djurvich me semble invalide, ou tout au moins sa validité me semble partielle dans la mesure où elle confond deux définitions de l'institution proposées par Durkheim. Et il me semble effectivement qu'il faut déceler, il faut lire dans Durkheim non pas une théorie de l'institution, mais deux définitions de l'institution, et que faute de les distinguer, on attribue à la seconde, la définition large, des critiques qui ne valent que pour la première. Ce que fait, à mon sens, Djurvich. Durkheim propose une première définition de l'institution dans les textes de jeunesse, c'est-à-dire dans la première édition de la Division du travail social, qui date de 1893, et dans la première édition des règles de la méthode sociologique, qui date de 1895. Vous en faites pas, je ne vais pas faire une exégèse de tous les textes Durkheim. Dans ce premier corpus, l'institution se trouve définie comme habitude sociale consolidée, cristallisée, organisée. Cette définition n'est pas la même que celle qu'il propose en 1901 dans la préface à la seconde édition des règles de la méthode sociologique, où l'institution n'est plus caractérisée par sa consolidation d'habitudes sociales antérieures, mais comme, on l'a vu, une des manières d'être préétablies. Entre les deux, ça a été dit rapidement hier, entre les deux intervient un texte, le texte que Moss et Fauconnet rédigent en 1901, l'article Sociologie pour la Grande Encyclopédie. Et c'est précisément dans ce texte que, pour la première fois, Moss et Fauconnet proposent d'appeler institution les faits sociaux, précisément en raison de leur caractère préétabli. Et je ne lis pas tout le passage, mais ils ont une réflexion sur le choix de mots qui serait le plus approprié pour rendre compte du préétablissement des faits sociaux, et ils en viennent à l'idée que le mot qui convient le mieux, c'est le mot institution, à condition qu'on ne le prenne pas dans un sens étroit, strictement politique. C'est explicitement à ce passage de l'article de Moss et Fauconnet que Durkheim se réfère quand, en 1901, pour la première fois sous sa plume, il identifie faits sociaux et institutions. Je cite le passage qui précède immédiatement la définition de 1901, ainsi qu'on l'a fait remarquer, et cette remarque, c'est précisément celle de Moss et Fauconnet, ainsi qu'on l'a fait remarquer, il y a un mot qui, pourvu toutefois qu'on en étende un peu l'acception ordinaire, exprime assez bien cette manière d'être très spéciale, c'est celui d'institution. Il enchaîne avec la définition de l'institution. En d'autres termes, en proposant en 1901, dans la lignée de Moss et de Fauconnet, une définition large de l'institution qu'il assimile au social, Durkheim prend explicitement, plus ou moins explicitement, ses distances avec la définition étroite qu'il proposait jusque-là de l'institution comme forme consolidée du fait social. Et il me semble que Djurvich a raison s'il adresse ses critiques à la première définition durkheimienne de l'institution, il a tort s'il l'adresse à la seconde. Or, il se base textuellement sur la seconde définition du fait social. Alors, je reviens très rapidement, pour avoir le temps de déployer tout mon propos, sur les différences entre cette première et cette seconde définition. Dans la première définition de l'institution proposée par Durkheim, donc dans la division du travail social et les règles de la méthode sociologique, les institutions sont des habitudes collectives consolidées. C'est-à-dire que les institutions sont un type spécifique de fait social. Les faits sociaux dans leur forme la plus consolidée, la plus cristallisée. Et non pas, comme ce sera le cas à partir de 1901, l'institution identifiée à tous les faits sociaux. Donc, les institutions sont les faits sociaux les plus consolidés, et il faut immédiatement souligner que cette spécification de l'institution au sein du social a pour cadre conceptuel ce que j'appellerais un schème spontanéiste du social. C'est-à-dire que dans ce premier corpus, les normes, les institutions émergent spontanément des pratiques. Je ne cite pas le passage sur lequel je m'appuie pour cela, mais qui déploie la métaphore du sillon progressivement creusée par les passages successifs des marcheurs. De même, pour Durkheim, la socialité d'une pratique se joue dans sa répétition, dans sa consolidation consécutive, d'abord sous forme d'habitude, de coutume, de tradition, jusqu'au fait institutionnel. En d'autres termes, dans ce schéma spontanéiste, les institutions sont des rapports sociaux répétés qui, dans cette répétition, acquièrent consolidation, cristallisation, organisation. Et c'est précisément leur plus haut degré de cristallisation, c'est une expression durkheimienne, hein, c'est leur plus haut degré de cristallisation qui permet de différencier les faits sociaux institutionnels des autres types de faits sociaux. Alors, plus précisément, quand on explore le corpus durkheimien sur cette question, il s'avère qu'il y a trois critères qui permettent de spécifier les faits institutionnels relativement aux faits sociaux, à savoir la consistance, la définition et l'organisation. Je reviendrai, si vous voulez, sur ce point lors de la discussion pour me concentrer immédiatement sur les premières conclusions sur cette définition initiale, liminaire, du fait de l'institution. Vous le comprenez, dans un tel schéma spontanéiste, l'antécédence de l'institution à l'égard des individus procède de la répétitivité et de la régularité dont elle est l'incarnation. L'individu trouve l'institution toute faite, lui préexistant, parce qu'elle résulte dans sa consolidation des multiples répétitions qui l'ont précédée. De ce point de vue-là, le préétabli est un répété, un régulier. Seconde conclusion, on le comprend également, l'institution dans ce premier corpus se trouve, il me semble, reconduit à l'institution au sens étroit. Ce sont les institutions empiriques, positives, organisées, les systèmes organisationnels dont il est ici question. Je reprends des distinctions qui ont été faites hier. Surtout, dans un tel cadre spontanéiste, l'institution, dans son obligatoriété même, ne fait qu'exprimer une régularité factuelle, et on peut incontestablement, à la manière de ce que Gurvitch fait, lire dans cette première définition de l'institution une réduction du devoir-être à l'être, et par là même une annihilation des potentialités instituantes de l'institution. On peut même déceler ce que fait Gurvitch dans la suite du texte, un fonctionnalisme latent chez Durkheim avec un modèle biologiste sous-jacent qui explique la vie et la mort des institutions selon leur convenance au milieu social. Alors, premier état de ma recherche sur ce que peut vouloir dire instituer par la collectivité, il me semble que le « institué par la collectivité » de 1901 ne peut pas vouloir dire « consolidé par la répétition sociale », précisément parce que Durkheim propose une seconde définition qui prend ses distances par rapport à la première définition l'institution. Excusez-moi. J'en viens... Je me dépêche parce que je veux avoir le temps de déployer complètement la suite. J'en viens... Maintenant, après avoir exploré en creux ce que pouvait être l'institué par la collectivité, dans la mesure où ce n'est pas la simple répétition, j'en viens à ce que cela peut désigner positivement dans ma seconde partie. Alors, je voudrais pour ce faire partir de l'interprétation que Vincent Descombes a proposée hier cette définition durkheimienne et en particulier de cette instituée par la collectivité. Vous me corrigerez si ma restitution n'est pas correcte. L'institution désigne, dites-vous, tout ce qui est institué, c'est-à-dire, en suivant Durkheim, des manières d'être, de penser, de sentir, d'agir, partageant ce caractère spécifique d'être préétabli. La proposition que vous faites, c'est de relire cette définition durkheimienne à la lumière de la philosophie du langage et de la philosophie de l'action contemporaine pour l'expliciter. C'est-à-dire que les règles préétablies, que l'individu trouve toutes faites, sont des règles prédéfinies, le préétabli est un prédéfini, qui peut être spécifié par la distinction proposée par Wittgenstein entre règles régulatives et règles constitutives. C'est-à-dire que les règles préétablies ne sont pas des règles régulatives, c'est-à-dire des règles qui mettent progressivement en ordre des pratiques qui leur préexistent, mais, ce qui correspond à ce que j'ai désigné comme schéma spontanéiste, mais ces règles préétablies sont préétablies parce qu'elles sont constitutives, c'est-à-dire qu'elles rendent possibles des pratiques qui n'existeraient pas indépendamment de la règle qui les institue. Et par là même, des règles dont la transgression est une impossibilité logique. Je reprends la métaphore qui nous a occupés à plusieurs reprises et dont on peut interroger même le caractère métaphorique des règles du jeu. Les règles du jeu d'échecs sont constitutives parce qu'elles rendent le jeu d'échecs possible. Parce que, comme le dit Searle, sans les règles des échecs, nous ne pourrions pas jouer tout simplement aux échecs. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas interdire aux joueurs de faire quelque chose qui n'existe pas dans le jeu. Le non-respect, c'était la question de Benoît Friedman, le non-respect des règles du jeu conduit à un changement de jeu et donc à une création institutionnelle. Alors, j'ai dans la nuit deux interrogations qui me sont venues face à cette lecture de Durkheim à partir de la distinction entre règles régulatives et règles constitutives. Et donc, cette lecture, cette interprétation du préétabli comme étant le constitutif. Incontestablement, une telle lecture donne à voir dans l'institution durkheimienne un instituant et l'arrache par là même à la seule nécessité reproductive de l'instituer. Cependant, la question qu'on peut se poser est celle de savoir par qui les règles constitutives sont instituées et comment. Et il me semble que c'est tout le sens de cette expression durkheimienne « instituée par la collectivité » qu'il faut réussir à expliciter. Quelle est, en d'autres termes, l'origine des règles constitutives si cette question a un sens, s'il n'y a pas, en d'autres termes, simplement des règles constitutives dont on n'aurait pas à interroger l'amont. Il me semble que Durkheim précisément propose, et c'est ce que je vais essayer de déployer, une théorie qui permet d'interroger l'amont des règles constitutives, c'est-à-dire leur origine. Seconde question, ou seconde hésitation, interrogation, de telles règles constitutives sont des règles conventionnelles. Comme cela a été dit hier, jouant au jeu d'échecs, nous pouvons décider de changer les règles du jeu et de créer par là même une nouvelle institution, un nouveau jeu. La question que je me pose, c'est est-ce que ce schème, est-ce que ce paradigme du jeu d'échecs, ou du jeu de dames, enfin, le paradigme du jeu peut être appliqué au social. Et en particulier, les institutions sociales ont-elles, peuvent-elles avoir une telle origine conventionnelle? Et peut-on, qui plus est, appliquer cette origine conventionnelle au texte durkheimien? Pouvons-nous décider de changer les règles du jeu social? Pouvons-nous même nous retirer du jeu social? Il me semble qu'il y a là une difficulté. Ce qui me gêne le plus dans cette métaphore du jeu, c'est qu'elle assigne aux institutions sociales une origine arbitraire. Alors, ce que je voudrais proposer dans ma seconde partie et dans le temps qu'il me reste, c'est une autre interprétation de l'institué par la collectivité comme constitué au sens fort par la collectivité, mais qui ne réduise pas ce constitué par la collectivité à l'arbitraire d'une convention. Pour ce faire, je m'appuierai alors non pas sur le paradigme du langage qui est peu mobilisé par Durkheim, mais sur celui du rite religieux, tel que Durkheim le déploie dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Dans le cadre de sa sociologie religieuse, l'institution au sens large engage en effet une théorie du symbolisme social dans laquelle l'activité instituante de la collectivité s'avère irréductible tant aux nécessités quasi physiologiques de reproduction du corps social institué qu'à la constitution arbitraire de conventions sociales. Alors, vous l'avez compris, l'institution au sens large, ces manières d'être instituées par la collectivité, c'est ce que Durkheim appelle dans la plupart de ses textes les représentations collectives, et non pas la conscience collective, qui est un concept antérieur qui correspond à un autre paradigme durkheimien. C'est-à-dire des représentations qui n'ont pas d'autre lieu que les consciences individuelles, mais qui n'en proviennent pas, puisque au contraire, elles s'imposent à elles. En d'autres termes, les institutions, ce sont des représentations collectives, c'est-à-dire des représentations par la même normative. Or, dans sa sociologie religieuse, Durkheim propose une théorie des représentations collectives qui croise, d'une part, une théorie de l'idéalisation collective, et d'autre part, ce sera mes deux points, une théorie de l'idéalisation collective, dans laquelle on peut voir un pouvoir instituant des représentations collectives. Nos manières d'être collectives obéissent d'abord à ce que Durkheim a appelé, dans quelques rares occurrences, mais il me semble importantes occurrences, les lois de l'idéation collective. Lois qui permettent de répondre à la première question de l'origine et du déploiement des institutions. Selon cette théorie de l'idéation collective, nos manières d'être, nos manières de penser préétablies, ont pour source la société, plus exactement même la société dans ses dimensions matérielles et instituées. De ce point de vue-là, elles n'ont pas une origine arbitraire. Cependant, l'explication morphologique des représentations collectives ne peut avoir, selon Durkheim, qu'une portée limitée. Si elle parvient à expliquer la genèse de la vie sociale psychique, elle ne peut en expliquer le développement. Je lis un passage des formes élémentaires de la vie religieuse. « Ces sentiments, ces idées, images, une fois nées, obéissent à des lois qui leur sont propres. Ils s'appellent, se repoussent, fusionnent, se segmentent, prolifèrent, sans que toutes ces combinaisons soient directement commandées et nécessitées par l'état de la réalité sous-jacente. Les représentations collectives, dans leur développement, n'ont pas pour cause directe l'état de la structure sociale, elles proviennent, nous dit Durkheim, de représentations collectives antécédentes qui, en se synthétisant, sont créatrices de représentations collectives nouvelles. En d'autres termes, il y a une vie propre des institutions, il y a une vie propre de ces manières d'être qui nous précèdent. De ce point de vue, la manière dont nos schèmes préétablis de penser, de sentir, d'être s'associent, se synthétisent de manière créative, dessine une véritable sociologique. Et il me semble que Durkheim assumerait pleinement que nos manières de penser ne relèvent pas de la seule activité du sujet pensant et qu'il ne verrait pas dans le sociologisme un véritable risque, puisque au contraire, il assigne à la sociologie la tâche de dégager les lois non perçues par les individus de la manière dont ces représentations collectives s'associent de manière créative. Première conclusion donc, l'idéation collective, parce qu'elle est synthétique, est le lieu d'une véritable créativité institutionnelle, non subordonnée à une source et à une finalité morphologique de reproduction homéostatique du corps social. Cependant, et ce sera mon dernier point, les représentations collectives ne sont pas, selon Durkheim, des représentations descriptives ou mimétiques. Ce sont des représentations normatives qui tout à la fois s'imposent aux individus et les attirent. Ce sont, plus particulièrement encore, des pensées qui font agir. Plus exactement, les institutions au sens large, donc ces croyances préétablies, instituées par la collectivité, sont ce que Durkheim appelle des idéaux collectifs. Et ces idéaux collectifs instaurent un mode de saisie de l'objet très particulier que Durkheim appelle la transfiguration. Idéaliser, transfigurer, c'est, nous dit-il, je le cite dans les formes élémentaires de la vie religieuse, substituer au monde de la réalité un monde différent dans lequel l'individu se transporte par la pensée. C'est, nous dit-il encore, ajouter au réel. Il y a là une spécificité caractéristique de nos manières collectives de penser qui explique qu'elles soient simultanément des manières collectives d'être et d'agir. Et Durkheim mobilise un concept pour subsumer cette spécificité de la pensée collective, non pas simplement l'idéation collective, mais l'idéalisation collective. L'idéalisation collective, c'est précisément cette propriété de la pensée sociale à transfigurer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transfiguration ? Cette transfiguration, elle opère à un premier niveau. Je prends volontairement un exemple que Durkheim explicite dans sa théorie de l'effervescence collective et du symbolisme social, à savoir le Shuringa. Donc les Arunta, population totémique australienne, ont des rites dans lesquels ils mobilisent ou ils manipulent le Shuringa, qui est un morceau de bois sur lequel est représenté l'emblème totémique. Les Arunta, quand ils manient rituellement le Shuringa, transfigurent ainsi la réalité du morceau de bois à la lumière de ce qui compte, de ce qui vaut collectivement pour eux. Les Arunta mettent collectivement dans le Shuringa plus qu'il n'y a dans un morceau de bois. Ils y injectent, ils y projettent de l'idéal, de la valeur, et cette projection, ce processus de valorisation, est un acte, nous dit Durkheim, spécifiquement social. La production de valeur est un acte social. Pour prendre un autre exemple durkheimien peut-être plus proche de nous, nous faisons exactement de même avec le drapeau national. Nous mettons collectivement dans le drapeau national bien plus qu'il n'y a dans un morceau de tissu. Nous y projetons un idéal collectif, nous transfigurons le morceau de tissu. Nous substituons à sa réalité matérielle une réalité idéale et idéale qui ne vient pas de nous individuellement. Il y a là une spécificité de la pensée sociale qui la différencie radicalement des formes individuelles de pensée. L'idée collective, en tant qu'idéal collectif, fait la réalité. C'est ce que Durkheim appelle l'idéalisme essentiel de la vie sociale. L'idée change la réalité, l'idée fait la réalité, il la transfigure. C'est là, il me semble, précisément ce qu'est une institution, à savoir une réalité matérielle transfigurée par un idéal social, par un système symbolique collectif qui l'investit d'une nouvelle signification, qui lui confère des propriétés qu'elle n'a pas par elle-même. C'est en ce sens que le Shuringa est une institution pour les Arunta ou que le drapeau est une institution pour nous modernes. Et il me semble que la définition durkheimienne gagne ici en précision, puisqu'il y a institution quand est surajoutée par les individus à la réalité des choses une réalité symbolique qu'ils n'ont pas eux-mêmes forgée, qu'ils trouvent préétablie, instituée par la collectivité. C'est là précisément que Durkheim loge l'activité instituante ou constituante de la collectivité qu'il déploie dans sa théorie de l'effervescence collective. Via l'emblème totémique déposé sur le Shuringa, les Arunta accèdent, nous dit Durkheim, à une représentation d'eux-mêmes comme groupe qu'ils n'auraient pu atteindre depuis la seule intériorité de leur conscience individuelle. Ça ne veut pas dire que le symbole totémique qui est déposé sur le Shuringa soit la projection sur l'objet matériel, le bout de bois, de l'idée préconstituée que le groupe aurait de lui-même. En d'autres termes, l'idée que le groupe a de lui-même ne préexiste pas au maniement rituel du Shuringa. Tout au contraire, et c'est là la distinction que Durkheim opère entre représentation symbolique et représentation mimétique, le clan n'accède à une telle représentation de soi que par la symbolisation totémique et par son maniement rituel. Je cite un passage qui me semble absolument clé de la théorie durkheimienne du symbolisme social. L'emblème n'est pas seulement un procédé commode qui rend plus clair le sentiment que la société a d'elle-même. L'emblème sert à faire ce sentiment. Il en est lui-même un élément constitutif. En d'autres termes, le symbole ne permet pas simplement à la collectivité de mieux prendre conscience d'une unité qui lui préexisterait. Au contraire, le symbole est constitutif de l'unité de la collectivité. Le symbole est nécessaire. Le symbole et son maniement rituel est nécessaire à la constitution de la collectivité comme telle. Ou encore, le groupe se constitue dans et par la symbolisation de son unité dans un objet matériel. Vous le comprenez, la représentation symbolique par laquelle les individus transfigurent certaines réalités matérielles est une représentation constituante qui constitue le groupe comme tel. Et de ce point de vue, la transfiguration opère à un second niveau. Le symbole totémique non seulement transfigure le morceau de bois, il y a plus dans le Shuringa qu'un simple morceau de bois, mais aussi et surtout institue l'idée unitaire du groupe, le groupe comme unité. j'en viens à ma conclusion. Il me semble ainsi possible de lire dans la théorie durkheimienne du symbolisme social un redéploiement de sa définition large de l'institution. L'institution comme manière de penser, d'être et d'agir, instituée par la collectivité, s'y trouve précisée par la double transfiguration symbolique. Il y a institution quand est surajoutée par les individus à la réalité des choses, une réalité symbolique qu'ils n'ont pas eux-mêmes forgée, qu'ils trouvent toute faite. Et cette transfiguration institue, se surajoute, fait, institue, constitue le groupe. En ce sens, toute institution est symbolique et par la même instituante. Plus précisément, l'institution symbolique de Durkheim se trouve prise dans un jeu alterné de l'instituant et de l'institué. Les institutions symboliques produites par la collectivité sont également productrices de la collectivité. Et c'est par ce processus incessant d'institutionnalisation symbolique que la collectivité, nous dit Durkheim, se crée et se recrée, se fait et se refait périodiquement. Il me semble qu'il y a dans cette théorie sociologique de l'institution symbolique une conception forte, pour répondre définitivement à Élodie, une conception forte de la normativité, irréductible par le caractère constituant du symbole à une simple normalisation fonctionnelle. Et on voit là, hein, par là même, combien le préétabli durkheimien ne peut pas, dans la seconde partie de son œuvre, être réduit à du répété. Au contraire, combien il est créatif et constituant. Cependant, l'institution symbolique instituée par la collectivité et instituante pour la collectivité ne me semble pas pouvoir être réduite à un arbitraire conventionnel. Certes, le symbole, en tant qu'il n'est pas une représentation figurative, imitative, relève d'une forme d'arbitraire. Pourquoi le shuringa associe-t-il tel trait à tel autre ? Pourquoi le drapeau national associe-t-il telle couleur et non pas telle autre ? Certes également, l'objet matériel même sur lequel se dépose le symbole relève tout autant d'une forme d'arbitraire. Pourquoi le shuringa, pourquoi l'emblème totémique est-il déposé sur un morceau de bois ? Pourquoi mettons-nous notre emblème national sur un bout de tissu ? Pour autant, il y a pour Durkheim, il y a nécessité que le groupe se constitue et se réactive incessamment, rituellement, par le symbole et par sa manipulation rituelle. Il n'est, de ce point de vue-là, pas possible aux membres du groupe de ne pas jouer ce jeu. Tout simplement parce que ce n'est pas un jeu. C'est une pratique constitutive de la vie sociale. Il ne leur est pas davantage possible de se retirer du jeu ou de modifier conventionnellement les règles. Il y a là, ce me semble, une véritable nécessité sociale, non pas politique, non pas conventionnelle, de l'instituant. Merci.